Chapitre 3. La vie de Socrate a été consacrée tout entière à la pratique et à l'exemple du bien. Plein de respect envers les dieux, il a toujours aussi fait preuve de tempérance. Comment Socrate me paraissait rendre service à ses disciples, soit en se montrant dans la pratique telle qu'il était réellement, soit en conversant avec eux, c'est là ce que je vais écrire en recueillant de mon mieux mes souvenirs. Pour ce qui regarde les dieux, on le voyait, dans sa conduite et ses paroles, se conformer aux réponses que fait la Pythie à ceux qui lui demandent de quelle manière il faut agir au sujet des sacrifices, des honneurs à rendre aux ancêtres ou tout autre objet de cette nature. La Pythie déclare par un oracle que quiconque agit sur ce point conformément aux lois de la patrie agit pieusement. Or, Socrate agissait ainsi et engageait les autres à faire de même, regardant tous ceux qui tenaient une conduite différente comme des hommes étranges et insensés. Il demandait simplement aux dieux de lui accorder les biens, persuadé qu'il était que les dieux savent parfaitement quels sont ces biens. Leur demander de l'or, de l'argent, le pouvoir ou toute autre chose semblable, c'était à son avis leur demander l'issue d'un coup de dé, d'un combat ou toute autre chose dont on ne peut savoir comment cela tournera. Modeste dans ses offrandes parce que sa fortune était modeste, il croyait ne pas rester au-dessous de ces riches qui, avec de grands biens, offrent de nombreuses et grandes victimes. Les dieux, disait-il, agiraient mal s'ils acceptaient avec plus de plaisir les grandes offrandes que les petites, car souvent les dons des méchants leur agréeraient plus que ceux des bons, et l'homme, à son tour, croirait la vie peu de chose si les dons des hommes vertueux étaient moins agréables aux dieux que ceux des méchants. Et au contraire, il croyait que les offrandes des personnes les plus pieuses étaient celles qui plaisaient le plus aux dieux. Il louait aussi ce vers « Selon votre pouvoir, offrez aux immortels » et il prétendait qu'avec les amis, les hôtes, dans toutes les circonstances de la vie, c'était un excellent précepte que celui-ci « Selon votre pouvoir ». S'il lui semblait recevoir quelque avis des dieux, on l'eût moins facilement déterminé à agir contre cet avis qu'à prendre dans une marche un guide aveugle et ignorant le chemin au lieu d'un homme clairvoyant et connaissant la route. Il accusait de folie ceux qui agissent contre les avis des dieux pour se mettre à l'abri de la mauvaise opinion des hommes. Pour lui, tout ce qui venait de l'homme lui paraissait bien inférieur aux avis de la divinité. Il avait façonné son âme et son corps à un régime tel qu'en adoptant, sauf une intervention d'en haut, on serait sûr de vivre en toute confiance et en pleine sécurité, avec de quoi suffire à une aussi modeste dépense. Il était si frugal que je ne sais personne qui ne pourrait travailler assez peu pour ne pas gagner ce dont Socrate se contentait. Il ne prenait de nourriture qu'autant qu'il avait plaisir à manger, et il arrivait à son repas dans une disposition telle que la faim lui servait à cet assaisonnement. Toute boisson lui était agréable parce qu'il ne buvait jamais sans avoir soif. S'il voulait bien se rendre à un repas où il était convié, ce soin si pénible à la plupart des hommes de ne pas se gorger outre mesure, il le prenait avec la plus grande facilité. Pour ceux qui ne pouvaient en faire autant, il leur conseillait de ne pas manger sans appétit et de ne pas boire sans soif. « C'est là, disait-il, ce qui fait mal au ventre, à la tête et à l'âme. » Et il ajoutait en plaisantant que, selon lui, Circé employait l'abondance des mets pour changer les hommes en pourceaux, et qu'Ulysse devait au conseil de Mercure, à sa tempérance naturelle, à son abstention de mets servis en surabondance, de n'avoir pas été changé en pourceaux. C'est ainsi que, sur cette question, il mêlait le plaisant au sérieux. Quant à ce qui regarde l'amour, il conseillait de fuir bravement la société des personnes belles. « Il n'est pas aisé, disait-il, de rester sage dans leur commerce. » Un jour donc, ayant appris que Critobule, fils de Criton, avait donné un baiser au fils d'Alcibiade, garçon charmant, il tint ce discours à Xénophon, en présence même de Critobule. « Dis-moi, Xénophon, ne croyais-tu pas que Critobule fût un sage plutôt qu'un amoureux indiscret, un homme prudent plutôt qu'un insensé et un aventureux ?»« Assurément, dit Xénophon. Eh bien, regarde-le maintenant, comme le plus bouillant et le plus entreprenant des hommes. Il est capable de se jeter tête baissée sur les épées et de sauter dans le feu. » « Mais que lui as-tu donc vu faire ?» dit Xénophon pour l'accuser ainsi. « Mais n'a-t-il pas eu l'audace de donner un baiser au fils d'Alcibiade, ce garçon si joli et si frais ?»« Mais si c'est là, dit Xénophon, l'acte d'un aventureux, il me semble que je pourrais bien moi-même courir pareille aventure. »« Malheureux, dit Socrate, sais-tu ce qui t'arriverait si tu donnais un baiser à un joli garçon ?» Ignores-tu que de libre tu deviendrais aussitôt esclave, que tu dépenserais beaucoup pour des plaisirs funestes, que tu n'aurais plus de cœur à rechercher ce qui est beau et bien, que tu serais contraint de poursuivre ce qui ne poursuivrait pas même un fou? Par Hercule, dit Xénophon, quelle terrible puissance tu donnes à un baiser! En es-tu donc étonné, dit Socrate? Ne sais-tu pas que les tarentules, qui ne sont pas plus grosses que les demi-oboles, seulement approchées de la bouche, causent aux hommes des douleurs terribles et les privent de la raison? Par Jupiter, c'est vrai, dit Xénophon, c'est que les tarentules insinuent je ne sais quoi avec leurs morsures. Insensé, dit Socrate, ne crois-tu pas qu'il y a dans le baiser d'un beau garçon quelque chose que tu ne saurais voir? Ignores-tu que ce monstre qu'on appelle un homme frais et joli est d'autant plus redoutable, comparé aux tarentules, que celle-ci blesse en touchant, tandis que l'autre, sans toucher, mais par son aspect seul, lance même de fort loin je ne sais quoi qui jette dans le délire? Peut-être même donne-t-on le nom d'archer aux amours, parce que les beaux garçons blessent de loin. Ainsi qu'ils le font. Je te conseille, quand tu verras une personne belle, de fuir sans te retourner. Pour toi, Critobule, je te conseille de voyager une année entière. C'est à peine si tout ce temps suffit à guérir ta morsure. En amour donc, il était d'avis que ceux qui ne peuvent maîtriser leur fougue en usent comme de tout ce que l'âme réprouverait sans un besoin impérieux du corps, besoin dont la satisfaction ne doit point imposer à l'âme aucune contrainte. Pour lui, on le voyait si bien armé contre ces sortes de délires qu'il s'éloignait plus facilement des beaux et jolis garçons que d'autres des gens laids et difformes. Telle était sa manière d'être à propos du boire, du manger, des plaisirs des sens. Il pensait sur ce point, éprouver autant de joie à se satisfaire que ceux qui s'y donnent beaucoup de mal et s'exposer d'autre part a beaucoup moins de peine.
Chapitre 4. Il y a des dieux et ils veillent sur les hommes. Si quelques personnes s'imaginent, comme plusieurs l'écrivent et le disent par conjecture, que Socrate possédait le plus grand talent pour inviter les hommes à marcher vers la vertu, mais qu'il était incapable de les y faire pénétrer, qu'elles examinent non seulement les questions au moyen desquelles il confondait par manière de correction ce qui prétendait tout savoir, ainsi que les entretiens qu'il avait chaque jour avec ses disciples, et qu'elle juge alors s'il était capable de rendre meilleur ce qui vivait auprès de lui. Je raconterai d'abord la conversation que je lui ai entendu tenir au sujet de la divinité avec Aristodème, surnommé le Petit. Il avait appris que cet Aristodème n'offrait aux dieux ni sacrifice ni prière, qu'il n'avait point recours à la divination, qu'il raillait même ceux qui observaient ses pratiques. « Dis-moi, Aristodème, lui demanda-t-il, y a-t-il des hommes que tu admires pour leur habileté ?»«
Oh oui, certes. »
« Dis-nous donc leur nom. » »« Dans la poésie épique, j'admire surtout Homère, dans le dithyrambe Mélanippide, dans la tragédie Sophocle, dans la statuaire Polyclète, dans la peinture Xuxis. Quels sont, à tes yeux, les plus dignes d'admiration? De ceux qui créent des images sans raison et sans mouvement, ou bien des êtres intelligents et animés? Avant tout, par Jupiter, ceux qui créent des êtres animés, si cependant ces êtres ne sont pas l'œuvre du hasard, mais d'une intelligence. Mais entre les œuvres dont la destination n'est pas manifeste et celles dont l'utilité est incontestable, lesquelles considères-tu comme un produit du hasard ou bien d'une intelligence? Bon, il est juste de dire que celles qui ont un but d'utilité sont le produit d'une intelligence. Alors ne te semble-t-il donc pas que celui qui, dès l'origine, a fait les hommes, leur a donné dans une vue d'utilité chacun des organes au moyen desquels ils éprouvent des sensations, des yeux pour voir ce qui est visible, des oreilles pour entendre ce qui peut être entendu? Les odeurs, si nous n'avions pas de narines, à quoi nous serviraient-elles? Y aurait-il une sensation de ce qui est doux, de ce qui est amer, de tout ce qui est agréable à la bouche, si la langue n'avait été créée pour le discerner? En outre, ne trouves-tu pas qu'on doit regarder comme un acte de prévoyance que la vue étant un organe faible, elle soit munie de paupières qui s'ouvrent au besoin et se ferment durant le sommeil, et que pour la protéger contre les vents, elle soit munie d'un crible de cils, que les sourcils forment une gouttière au-dessus des yeux, de sorte que la sueur qui découle de la tête ne puisse leur faire mal, que l'oreille reçoive tous les sons sans se remplir jamais, que chez tous les animaux, les dents de devant soient propres à couper et les molaires à broyer les aliments qu'elles en reçoivent, que la bouche par où les animaux introduisent la nourriture qu'ils désirent soit placée près des yeux et des narines, tandis que les déjections qui nous dégoûtent ont leurs canaux éloignés et détournés aussi loin que possible de nos organes. Tous ces ouvrages d'une si haute prévoyance, doutes-tu si tu dois les attribuer au hasard ou à une intelligence? Non, par Jupiter, dit Aristodème, mais quand on y regarde, cela ressemble parfaitement à l'œuvre de quelque ouvrier, sage et ami des êtres qui respirent. Et le désir donné aux créatures de se reproduire, et le désir inspiré aux mères de nourrir leurs fruits, et chez ce fruit le plus grand amour de la vie, la plus grande crainte de la mort. Bon, évidemment, tout cela paraît des inventions d'un être qui avait décidé qu'il existerait des animaux. Maintenant, crois-tu que tu sois un être pourvu de quelque intelligence et qu'ailleurs il n'y ait rien d'intelligent? Et cela, quand tu sais qu'il n'y a dans ton corps qu'une parcelle de la vaste étendue de la terre, une goutte de la masse des eaux, et que sur l'immense quantité des éléments, quelques faibles parties ont servi à organiser ton corps? Penses-tu que toi seul aurais eu le bonheur de ravir une intelligence qui par suite n'est nulle part ailleurs, et que ces êtres infinis par rapport à toi, en nombre et en grandeur, seraient maintenus en ordre par une force intelligente? Ben je le nie, par Jupiter, car je n'en vois pas les maîtres comme je vois les artisans des œuvres qui se font ici-bas. Et tu ne vois pas non plus ton âme, qui est la maîtresse de ton corps, de sorte que tu pourrais dire, par la même raison, que tu ne fais rien avec intelligence, mais tout au hasard. Alors, Aristodème, certes, Socrate, je ne méprise point la divinité, mais je la crois trop grande pour avoir besoin de mon culte. Cependant, dit Socrate, plus l'être qui veut bien agréer tes hommages est grand, plus tu dois l'honorer. Bon, sache-le bien, si je croyais que les dieux ont quelques soucis des hommes, je ne les négligerais point. Comment? Tu ne crois pas qu'ils en aient souci? Eux qui, tout d'abord, ont accordé à l'homme, seul de tous les animaux, la faculté de se tenir debout. Or, cette attitude lui permet de porter plus loin sa vue, de mieux contempler les objets qui sont au-dessus de lui et d'être moins exposé au danger. Ils ont placé en haut les yeux, les oreilles, la bouche, et tandis qu'ils donnaient aux autres animaux attachés au sol des pieds qui leur permit seulement de changer de place, ils ont de plus accordé à l'homme des mains, à l'aide desquelles nous accomplissons la plupart des actes qui nous rendent plus heureux que les animaux. Tous les autres êtres ont une langue. Celle de l'homme est la seule qui soit faite de manière à ce qu'en touchant les diverses parties de la bouche, elle articule des sons et communique aux autres tout ce que nous voulons exprimer. Parlerai-je des plaisirs de l'amour, dont la faculté est bornée pour les autres animaux à une saison de l'année, s'étend pour nous sans interruption jusqu'à la vieillesse? Il n'a donc pas suffi à la divinité de s'occuper du corps de l'homme, mais ce qui est le point capital est la mise en lui, l'âme la plus parfaite. En effet, quel est l'autre animal dont l'âme soit capable de reconnaître l'existence de ces dieux qui ont ordonné cet ensemble de corps immenses et splendides? Quelle autre espèce, sauf les hommes, rend un culte aux dieux? Quelle autre âme que celle de l'homme est plus en état de se prémunir contre la faim, la soif, le froid, le chaud, de guérir les maladies, de développer la force par l'exercice, de travailler pour acquérir la science, de se rappeler ce qu'elle a vu, entendu ou appris? N'est-il pas évident pour toi qu'entre les autres animaux, les hommes vivent comme les dieux, supérieurs par la nature de leur corps et de leur âme? Avec le corps d'un bœuf et l'intelligence d'un homme, il serait impossible d'exécuter ce que l'on voudrait, à ce point que les êtres pourvus de mains mais dénués d'intelligence n'en sont pas plus avancés. Et toi, qui as reçu ces deux avantages si précieux, tu ne crois pas que les dieux s'occupent de toi? Mais que faudrait-il donc qu'ils fassent pour t'en convaincre? Ben, qui m'envoie, comme tu dis qu'il t'en envoie à toi-même, des avis sur ce que je dois faire ou ne point faire? Maintenant, mais quand ils parlent aux Athéniens qui les interrogent au moyen de la divination, crois-tu qu'ils ne te parlent pas aussi? Et de même, lorsque par des prodiges, ils manifestent leur volonté aux Grecs, à tous les hommes, es-tu le seul qu'ils aient choisi pour te laisser dans l'oubli? Penses-tu que les dieux auraient mis dans les hommes cette croyance qu'ils sont capables de faire le bien et le mal, s'ils n'en avaient reçu le pouvoir et que les hommes, trompés par eux depuis tant de siècles, ne s'en seraient point encore aperçus? Ne vois-tu pas que les établissements humains les plus antiques et les plus sages, les États et les nations sont aussi les plus religieux et que les époques les plus éclairées sont celles de la plus grande piété? Apprends, mon bon, que ton âme enfermée dans ton corps le gouverne comme il lui plaît. Il faut donc croire que l'intelligence qui réside dans l'univers dispose tout à son gré. Quoi, ta vue peut s'étendre à plusieurs stades et l'œil de la divinité ne peut tout embrasser à la fois? Ton âme peut en même temps s'occuper de ce qui se passe ici et en Égypte et en Sicile, et l'intelligence de la divinité n'est pas capable de songer à tout dans un seul instant. Certes, si en obligeant les hommes, tu reconnais ceux qui veulent aussi t'obliger, si en leur rendant service, tu vois ceux qui sont prêts à te payer le retour, si en délibérant avec eux, tu distingues ceux qui sont doués de prudence, de même, si en rendant hommage aux dieux, tu essaies de voir jusqu'à quel point ils veulent bien éclairer les hommes sur ce qui est caché, tu connaîtras quelle est la nature et la grandeur de cette divinité qui peut à la fois tout voir, tout entendre, être présente partout et prendre soin de tout ce qui existe. En parlant ainsi, Socrate me semblait apprendre à ses disciples à s'abstenir de toute action impie, injuste et honteuse, non seulement en présence des hommes, mais encore dans la solitude, puisqu'ils seraient convaincus que rien de ce qu'ils pourraient faire n'échapperait aux dieux. Chapitre 5. Comment Socrate enseignait la tempérance à ses disciples. Si l'on ne peut nier que la tempérance ne soit pour un homme une belle et utile acquisition, examinons si les paroles de Socrate y faisaient faire des progrès quand il s'exprimait ainsi. Citoyens, s'il vous survenait une guerre et que voulant choisir un homme capable avant tout de vous sauver et de soumettre les ennemis, nous en connussions un qui fut esclave de son ventre, du vin des plaisirs de l'amour, de la mollesse et du sommeil. Irions-nous le choisir? Comment pourrions-nous supposer qu'un pareil homme nous sauva et triompha des ennemis? Si nous voulions à la fin de notre vie confier à quelqu'un l'éducation de nos garçons, l'honneur de nos filles, le soin de notre bien, croirions-nous l'homme intempérant digne d'une telle confiance? Donnerions-nous à un esclave intempérant la garde de nos troupeaux, de nos greniers, la surveillance de nos travaux? L'accepterions-nous même gratuitement comme intendant et comme pourvoyeur? Ainsi, puisque nous ne voudrions pas même d'un esclave intempérant, comment n'attacherions-nous pas de l'importance à nous défendre de lui ressembler? En effet, on ne peut pas dire que, de même que les avares, en dépouillant les autres de leurs biens, se figurent qu'ils s'enrichissent, l'intempérant soit nuisible aux autres, mais utile à lui-même. Au contraire, s'il fait du mal aux autres, il s'en fait plus encore, puisque ce qu'il y a de plus pernicieux, c'est de ruiner en même temps que sa maison, son corps et son esprit. Et dans le commerce de la vie, peut-on se plaire avec un homme qui préfère à ses amis le vin et la bonne chère, ou qui aime mieux les prostituées que ses compagnons? N'est-ce pas un devoir pour quiconque regarde la tempérance comme la base de la vertu, de l'affermir d'abord dans son âme? Sans elle, mais comment apprendre le bien et le pratiquer dignement? Quel homme esclave de ses passions ne dégrade pas honteusement son corps et son âme? Il me semble, par Junon, que tout homme libre doit demander au Dieu de n'avoir pas un tel esclave, et tout homme esclave de ses passions de rencontrer le bon maître, autrement il est perdu. Voilà ce qu'il disait, et ses actions, plus encore que ses paroles, témoignaient de sa tempérance. Supérieur non seulement au plaisir des sens, mais à ceux que procure la richesse, il pensait que recevoir de l'argent du premier venu, c'était se donner un maître et s'asservir à la plus honteuse servitude. Chapitre 6. Socrate réfute le sophiste Antiphon qui lui reprochait sa frugalité, sa simplicité et sa coutume d'enseigner gratuitement. Il convient ici de ne point passer sous silence l'entretien qu'il eut avec le sophiste Antiphon. Un jour, Antiphon, qui voulait enlever à Socrate ses disciples, l'aborde et lui dit en leur présence « Je croyais, Socrate, que les philosophes de profession devaient être plus heureux, mais toi tu me parais avoir retiré tout le contraire de la philosophie. Tu vis de telle sorte qu'il n'y a pas d'esclave qui voulût vivre sous un pareil maître. Tu te nourris des plus grossiers aliments, tu bois les plus vils breuvages. Non seulement tu as un méchant vêtement, mais il te sert l'été comme l'hiver. Tu vas sans chaussures et sans tunique. Et cependant, tu ne reçois aucun argent, quoique l'argent soit agréable à prendre et qu'il permette à ceux qui le possèdent de vivre avec plus d'indépendance et de douceur. Si donc, à la manière des autres maîtres qui forment leurs disciples à leur ressembler, tu instruis ainsi les tiens, tu peux te considérer comme un professeur de misère. » À ces mots, Socrate répond « Oh, tu t'es fait, je crois, Antiphon, une si triste idée de mon existence que je t'ai conduit à mieux aimer mourir que de vivre comme toi. Eh bien donc, examinons en quoi tu trouves ma vie si pénible. Est-ce parce que, à l'opposé de ceux qui, exigeant un salaire, sont obligés de faire ce qu'il leur rapporte, moi qui ne reçois rien, je ne suis pas forcé de m'entretenir avec qui je ne veux pas? Trouves-tu mon existence misérable, parce que ma nourriture est moins saine que la tienne ou moins fortifiante, ou bien parce que mes aliments sont plus difficiles à trouver que les tiens, plus rares, plus délicats? Ou bien encore parce que les mets que tu prépares t'agréent plus que les miens à moi? Mais ne sais-tu pas que celui qui mange avec plaisir n'a pas besoin d'assaisonnement? Que celui qui boit avec plaisir se passe aisément de la boisson qu'il n'a pas? Quant aux vêtements, tu sais que ce qui en change qu'à cause du froid et de la chaleur. Que si l'on porte des chaussures, c'est pour que les pieds ne soient point arrêtés dans leur marche par ce qui peut les blesser. Et t'es-tu jamais aperçu que le froid m'a fait rester davantage à la maison, que pendant la chaleur je me sois battu pour avoir de l'ombre, qu'un mal de pied m'ait empêché d'aller où je voulais? Ignores-tu que les personnes faibles de corps deviennent, grâce à certains exercices, plus fortes que celles qui n'y sont pas exercées et capables de les supporter plus aisément? Et tu ne crois pas que moi, qui me suis exercé le corps, à braver toutes les influences, je les supporte plus aisément que toi, qui ne t'y es point exercé? Si je ne suis point esclave de mon ventre, du sommeil, de la lubricité, penses-tu qu'il y en ait une cause plus puissante que l'expérience de plaisirs plus doux, lesquels ne flattent pas seulement à l'instant même, mais font espérer des avantages continuels? Tu sais que sans l'espoir du succès, on ne goûte aucune jouissance, tandis que si l'on pense réussir dans l'agriculture, dans la navigation ou dans toute autre profession que ce soit, on s'y livre avec autant de joie que si l'on réussissait déjà. Crois-tu cependant que ce soit là un bonheur égal à celui que donne l'espoir de se rendre meilleur soi-même et ses amis? Telle est pourtant l'opinion dans laquelle je persiste. S'il faut servir ses amis ou sa patrie, qui donc en aura plus le loisir? De celui qui vit comme je fais, ou de celui qui embrasse la manière de vivre dont tu te glorifies? Qui se mettra le plus aisément en campagne, de celui qui ne saurait vivre sans une table somptueuse ou de celui qui se contente de ce qu'il a sous la main? Qui capitulera le plus promptement, de celui qui a besoin des mets les plus difficiles à trouver ou de celui qui est satisfait des aliments les plus vulgaires? Tu sembles, Antiphon, mettre le bonheur dans les délices et la magnificence. Pour moi, je crois que la divinité n'a besoin de rien, et que moins on a de besoin, plus on se rapproche d'elle. Et comme la divinité est la perfection même, ce qui se rapproche le plus de la divinité se rapproche le plus de la perfection. Un autre jour, Antiphon disait encore à Socrate, « Socrate, je te crois un homme juste, mais pas tout à fait un homme sage. Il me paraît d'ailleurs que tu es aussi de cet avis, et voilà pourquoi tu ne fais point d'argent de tes leçons. Cependant, ton manteau, ta maison et rien de ce qui t'appartient et que tu crois valoir quelque argent, tu ne le donnerais gratuitement à personne, ni pour un prix au-dessous de sa valeur. Il est clair que si tu estimais aussi les leçons, tu les ferais payer ce qu'elles valent. Tu es donc un honnête homme, puisque tu ne trompes pas par cupidité, mais non point un sage, puisque tu ne sais rien qui soit de quelque valeur. À cela, Socrate répondit, « Antiphon, n'est-il pas d'usage parmi nous qu'on peut faire de la beauté comme de la sagesse un emploi honnête ou honteux? Quiconque trafique de la beauté avec qui veut la lui payer s'appelle un prostitué. Mais celui qui, connaissant un homme épris de la vertu, cherche à s'en faire un ami, on le regarde comme un homme sensé. Mais il en est de même de la sagesse. Ceux qui en trafiquent avec qui veulent à leur payer s'appellent sophistes ou bien prostitués. Mais celui qui, reconnaissant dans un autre un bon naturel, lui enseigne tout ce qu'il sait de bien et s'en fait un ami, on le regarde comme fidèle au devoir d'un bon citoyen. Et moi de même, Antiphon. Ainsi qu'un autre est heureux d'avoir un bon cheval, un chien, un oiseau, je suis heureux, et plus encore, d'avoir de bons amis. Tout ce que je sais de bien, je le leur apprends, et j'y ajoute tout ce qui peut les aider à devenir vertueux. Les trésors que les anciens sages nous ont laissés dans leurs livres, je les parcours en société de mes amis, Et si nous rencontrons quelque chose de bien, nous le recueillons et nous regardons comme un grand profit de nous être utiles les uns aux autres. Pour moi, quand j'entendais ces paroles, je croyais que Socrate était heureux et qu'il conduisait ses auditeurs à la vertu. Une autre fois encore, Antiphon lui ayant demandé pourquoi, s'il se flattait de rendre les autres habiles dans la politique, il ne s'occupait pas lui-même de la politique qu'il prétendait connaître. « Lequel vaut donc mieux, Antiphon ?» répondit Socrate. « De m'occuper tout seul de politique ou de consacrer mes soins à rendre un grand nombre de gens capables de s'en occuper ?» Chapitre 7. Comment Socrate détournait ses disciples du charlatanisme et de l'ostentation. Examinons encore si, en détournant ses disciples du charlatanisme, il les tournait à la pratique de la vertu, car il disait toujours qu'il n'y a pas de plus beau chemin vers la gloire que quand un homme de bien est réellement tel qu'il veut paraître. Et la vérité de son assertion, il la prouvait ainsi. « Supposons, disait-il, qu'un homme qui ne serait pas bon joueur de flûte voulût le paraître, que devrait-il faire? Ne lui faudrait-il pas se donner artificiellement tous les dehors des bons joueurs de flûte? Et d'abord, comme les bons artistes possèdent un bel attirail et s'entourent de nombreux acolytes, il lui faudrait faire de même. Ensuite, comme ils ont un grand nombre de gens qui les prônent, ils devraient aussi se procurer beaucoup de preneurs. Cependant, il ne devrait jamais se mettre à l'œuvre, ou bien il se couvrirait aussitôt de ridicule et serait convaincu d'être non seulement un mauvais artiste, mais un charlatan. Malgré cela, dépensant beaucoup sans y rien gagner, perdu en outre de réputation, mais comment n'aurait-il pas une vie pénible, inutile et ridicule? De même, si un homme voulait se donner pour bon pilote et pour bon général sans l'être réellement, voyons ce qui lui arriverait. Est-ce que son désir de passer pour un homme capable de remplir ses emplois sans pouvoir le persuader ne le rendrait pas malheureux? Et parvint-il à le persuader? Ne serait-il pas plus malheureux encore? En effet, chargé de conduire un vaisseau sans le savoir, ou bien de commander une armée, il perdrait ce même qu'il voudrait sauver et se retirerait chargé de honte et de mépris. Et Socrate faisait voir de la même manière qu'il n'y a nul profit à se faire passer pour un homme riche, courageux ou robuste quand on ne l'est pas. Chargé d'emplois au-dessus de ses forces, ne pouvant les remplir, tout en paraissant capable, on n'obtient aucune indulgence. Il appelait fourbe, insigne, celui qui vole de l'argent ou tout autre objet qu'il a reçu de confiance, mais fourbe plus grand encore. L'homme sans valeur, dont l'effronterie cherche à convaincre qu'il est capable de diriger l'État. Pour moi, je crois que Socrate détournait ses disciples du charlatanisme en leur tenant ce langage.